Le village historique acadien vous présente la chronique Dans ce temps-là avec Philippe Basque.
Bonjour Philippe.
Bonjour Claude.
Bonjour Philippe.
Bonjour Sandra.
Vous voulez nous parler aujourd'hui de la Société historique Nicolas Denis. En fait, c'est la nouvelle revue d'histoire qui est disponible depuis quelques jours.
Oui, c'est ça. Elle est disponible depuis la semaine dernière. Puis c'est moi qui ai de retour à la préparer, la revue. Mais là, j'ai pas d'article de publier. C'est tous les autres auteurs qui ont publié des articles. Fait que je remercie Lucie Mallet qui s'en a occupé pendant 7 ou 8 ans. Puis auparavant, c'était moi qui s'en occupais. Mais là, maintenant, la revue, elle va être publiée deux fois par année. Fait que une des deux fois par année, ça va être moi qui va s'en occuper. Puis ça, la semaine dernière, on a eu le lancement au Cielo Camping là, à Hochepagan. Parce qu'une des biographies qui est à l'intérieur est sur une femme qui s'appelle Marie-Jeanne de Grasse. Puis il y a d'autres articles. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout parler, parce qu'il y a comme deux grands principaux articles. Puis après ça, il y a des articles qui sont un petit peu plus courts.
Okay.
On va se concentrer sur les deux premiers. Puis si on a du temps, on parlera des trois autres. Sinon, ça ira la semaine prochaine.
Qui elle était, Marie-Jeanne de Grasse?
Ça, c'est elle qui est sur la couverture. Fait, si jamais quelqu'un a vu la couverture passer sur les réseaux sociaux ou qui ont déjà leur revue en main, c'est une femme qui est originaire de Hochepagan, qui est la grand-mère de celle qui a écrit l'article, qui est Marie-Ève Laferrière. Puis, c'est ça, sur la couverture, elle est en train de pêcher des coques. Et on peut commencer là, à pêcher des coques là, quand il fait beau. En fin de semaine, il a fait beau. Là. Puis, c'est ça, la Hochepagan, c'était une place où on pêchait ce mollusque-là. Puis, elle va vivre une vie avec toutes sortes de choses qui vont se passer. Puis, c'est ça, donc elle va grandir à Hochepagan. Dans l'article, on mentionne que c'est une famille qui vit avec plusieurs générations dans la même maison, ce qui me fait penser à moi quand j'ai interviewé beaucoup les personnes âgées. Souvent, on avait les enfants, les parents, les grands-parents. Il y avait même une matante qui vivait avec eux autres. À mon avis, il était 9 ou 10 dans la famille. Elle est issue des De Grasse, qui était une famille qui était beaucoup impliquée dans la construction navale, puis des capitaines de bateaux, puis les navires, puis des choses du genre. Fait que dans l'article, il y a des belles photos de construction de bateaux des années 1920 et 1930. Qu'on voit là-dedans. Mais elle, Marie-Jeanne, la dame, son père va mourir à 43 ans, donc il va mourir assez jeune. Fait que la femme, elle va devenir veuve dans la trentaine. Puis après ça, elle, dans ce temps-là, je ne sais pas, elle ne se remariera jamais. Même dans la trentaine, quarantaine, on va l'appeler la veuve Hélène, comme si c'était une vieille madame, une veuve. Mais c'est ça, elle va devenir veuve. Elle était enceinte de 3 mois quand son mari décède. Là. Fait que la Marie-Jeanne, dans le fond, ne connaîtra pas tellement son père. Elle va quand même faire jusqu'à sa 9e année. Donc, elle va aller à une petite école à Hochepagan. Ensuite de ça, elle va finir sa 9e année dans ce qu'on appelle comme le village de Hochepagan, parce que Hochepagan, c'est un petit peu plus haut. Puis là, elle va faire sa 9e année. Puis après ça, comme beaucoup de jeunes filles de Hochepagan, mais dans tout le nord-est, même au Nouveau-Brunswick, elle va quitter la province pour aller chercher de l'emploi à Montréal, qui était comme la grande ville du Canada dans ce temps-là pour les Canadiens français. Puis elle va travailler chez une famille pour soigner les enfants. C'est comme typique, ça, de l'époque, là, des années 30, 40, là. On quittait pour aller à Montréal dans ces familles-là. Et éclate la guerre mondiale, donc 1939. Donc, encore là, elle va devenir une femme qui va aller travailler dans les usines d'armement, ces choses du genre. Elle va même tester des mitraillettes. Fait qu'on a ça dans l'article, qu'il fallait tester les mitraillettes, tester les munitions, puis là, elle tirait. Ça va même blesser à la main, au doigt, ou quelque part en tirant du fusil. Fait, tu sais, c'est des expériences qu'elle a réussi à faire. Aussi, dans ce temps-là, elle découvre le Montréal là, des années 30, 40, 50, où c'est un petit peu différent que la péninsule acadienne dans ce temps-là. Là.
Complètement.
Elle raconte qu'elle allait manger au Chinatown, par exemple, qui était comme des repas de l'Asie, tu sais, que nous autres, on n'a jamais vu ça par ici. On est en cours avec la morue, les patates, puis elle était rendue à manger des affaires d'origine de la Chine, puis toutes sortes de choses. Fait que c'était vraiment différent vivre là. Puis c'est dans ce temps-là qu'on va rencontrer un homme qui travaillait chez un nettoyeur, qui était un chapelier qui fabriquait des chapeaux. Puis ça va devenir comme l'homme de sa vie, qui va éventuellement se marier avec. Mais lui, à ce moment-là, il est déjà marié. Fait que ça va causer un secret là, dans la famille là, qu'on voit en lisant l'article. Lui s'appelait Roland Desmarais. Puis lui était pogné dans un mariage malheureux, il avait déjà un enfant. Puis il va être avec elle, là, Marie-Jeanne, puis éventuellement, ils vont avoir un enfant. Mais elle, pour ne pas alerter sa famille dans les années 50, elle va arrêter d'envoyer des lettres puis arrêter d'appeler ou de communiquer avec Chupagan parce qu'elle ne veut pas que les gens savent qu'elle est avec un homme marié, puis qu'elle va éventuellement avoir un enfant, puis un autre enfant. Fait que elle a vu sa vie à Montréal, puis les gens de Chupagan n'ont plus de nouvelles d'eux autres. Donc, pendant, je pense, une vingtaine d'années, là, qu'elle n'aura pas
de contact
avec le Nouveau-Brunswick. Là. Mais elle s'ennuyait tout le temps de ça, puis éventuellement, elle va raconter ça à sa fille, elle va avoir une fille. Même sa mère est venue la visiter à Montréal une année, la seule voyage que sa mère a fait à Montréal. Puis, pour ne pas voir la fille, elle a envoyé sa fille un peu chez une voisine ou chez quelqu'un. Puis, sa mère est venue, elle a visité, puis elle est repartie, puis elle a jamais su qu'elle avait une autre petite fille.
Là. C'est terrible quand même, hein?
Oui, puis ça va être la fille, quand elle va être rendue à 18 ans, presque 20 ans. Elle va vouloir visiter sa grand-mère qu'elle n'avait jamais connue à Chupagan. Là. Fait que là, finalement, eux autres vont renouer le contact grâce à la petite fille. Puis, c'est là qu'ils vont tout apprendre qu'il y a tout ce pan de famille-là qui existe à Chupagan. Puis là, la petite fille, quand elle va rencontrer sa grand-mère, Marie-Jeanne avait nommé sa fille en l'honneur de sa mère, donc Hélène. Donc, Hélène va rencontrer Hélène, la grand-mère. Là. Fait que ça va être un moment touchant de la petite fille puis la grand-mère qui se rencontrent. Puis là, ils vont appeler la mère à Montréal. Ils vont dire, regarde, un moment... tu peux venir nous voir. Fait, elle va prendre le train ou l'autobus, je ne m'en rappelle plus de ce détail-là, mais elle va venir les visiter. Elle va prendre l'autobus ou le train de nuit, puis elle va rouler jusqu'à la péninsule, puis comme le lendemain, elle sera là pour rencontrer tout le monde. Là. Puis finalement, elle va se marier avec son homme. Sa femme va décéder. Là. Fait que, ils vont se marier le 21 décembre en 1974. Puis la fille, Hélène, va se marier le 4 janvier, comme deux semaines après. Donc, la mère puis la fille vont se marier quasiment dans deux semaines d'écart. Ils vont même partager la même décoration qu'il y avait sur le gâteau. Là, qu'on mettait. Fait que là, ça va servir aux deux mariages.
Alors, c'est une histoire qui finit bien.
Oui, c'est une histoire qui finit bien, c'est ça. Fait qu'en 1976, je pense que tout le monde va venir visiter Chupagan. Puis on va tout se revoir. Là. Puis elle, Marie-Jeanne, que c'est sa biographie, elle va décéder le 9 mars. Puis son mari, lui, va décéder le 11 mars de la même année. Là. Fait qu'ils vont décéder à deux jours d'écart, là, les deux. Là. Fait que ça, c'était un peu, là, rapido, la première des histoires là, que je voulais raconter. Là.
Oui. Et il y en a d'autres, des histoires, dans cette nouvelle revue?
Oui. Fait, l'autre, c'est à propos de James Girvin, je pense. Là. Girvin, je ne sais pas comment le prononcer. C'est un homme d'affaires ça, de Bathurst que l'auteur, là, Roger Guittard, puis son fils Jérémy Guittard, ils ont appris qu'il y avait un letterbook qui existait, qui venait de son magasin à lui, là, ou son entreprise. Puis un letterbook, bien, c'est... Auparavant, on conservait une copie de toutes les lettres qu'on faisait. Puis aujourd'hui, on ne fait plus ça parce qu'on envoie des emails ou on se téléphone. Mais dans ce temps-là, les compagnies gardaient tout ça. Puis le letterbook a passé de Bathurst à quelqu'un qui l'a eu. Puis après ça arrivait à Shediac. Puis là, finalement, le letterbook a été acheté dans une vente aux enchères quand ce que les propriétaires de Shediac sont décédés, puis là, il fallait tout vendre, qu'est-ce qu'il y avait dans la maison. Fait que là, il y a quelqu'un que ça piquait sa curiosité parce qu'il a vu Bathurst ou quelque chose de même.
Mais j'essaie de comprendre, Philippe, on envoyait des lettres. Qui envoyait les lettres à qui?
Ah, ben c'est lui, l'homme d'affaires. Il envoyait des lettres à tout le monde.
Je comprends.
C'est un peu comme quoi, comme toi, tu conserves une copie de ton email que tu as envoyé.
OK.
T'sais, aujourd'hui, dans Email Send, là, on garde des copies de même. Là. Mm-hmm. Mais dans ce temps-là, lui, il fallait réécrire à la main. Comme moi, je vais t'envoyer une lettre à Claude, mais je vais refaire une copie
de la lettre. Parce qu'il n'y avait pas de photocopieuse dans ce temps-là.
Ben non, il fallait réécrire. Ouais.
Ben oui, il fallait réécrire. Souvent, c'était comme ça. Là. Puis lui, c'est ça. Lui, il va travailler à Chatham. Il va venir s'établir à Bathurst. Puis à Bathurst, lui, il est dans le Bathurst Village qu'on appelait, parce qu'il y avait Bathurst Town. Mm-hmm. Bathurst Town, ça, c'est sur la main, là, dans ce coin-là. Là. Tandis que Bathurst Town, c'est l'autre bord du pont, jusqu'à comme le McDonald's, puis c'est l'église Sainte-Famille. Fait que
est-ce qu'il était natif de Bathurst?
Non, lui, il était natif de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Puis il va venir travailler pour une compagnie à Chatham. Puis après ça, lui, il va prendre en charge une compagnie à Bathurst. Puis éventuellement, ça va être à son nom, là, mais il va gérer cette entreprise-là pendant longtemps. Lui, le commerce, puis la scierie, qui était un moulin à scie, là, une scierie, c'était comme en bas de l'eau, sur la Riverside, là, la rue. Là. Aujourd'hui, il n'y a comme plus de bâtiments là, mais quand tu regardes sur les vieilles photos, mm-hmm. il y avait toutes sortes d'industries, là, toutes sortes d'anciennes bâtisses. Puis dans son magasin, ben, lui, il y avait c'est en anglais, là, des groceries, clothing, furs, trinkets, millinery, frillery, puis hats and caps. Fait que c'était vraiment toutes sortes d'affaires. Les frilleries, c'était de la fantaisie pour faire des articles sur des chapeaux, des rubans, des petites choses de main là, qu'on mm-hmm. pouvait acheter dans son magasin. Lui, il avait sa série. Puis, il va rester là, à Bathurst. Il va faire des allers-retours au Chatham-Bathurst. Puis, finalement, il va décéder en 1891. Mais dans le letterbook, il y avait beaucoup de noms d'employés, de noms de toutes sortes de choses. Fait que dans l'article, on a plusieurs pages qu'on voit tout le monde de Bathurst qui a travaillé pour la compagnie. Là. Fait que c'est comme intéressant de voir ça. Comme je dirais les années 1880 jusqu'à 1891, comme une dizaine d'années, là, on voit un peu l'entourage qu'il y avait dans ce secteur-là de Bathurst, là, avec le monde. Des noms acadiens, des noms anglophones, on voit les deux.
Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre revue, Philippe? On a quelques minutes.
Il y a trois autres articles. Fait qu'il y a un article sur le déplacement des deux prêtres qui avaient été inhumés à l'intérieur de l'église de Caraquet. Fait que ça, c'est Clarence Le Breton qui a écrit ça. Donc, Monseigneur Paquette, que son nom a été donné à Paquetteville, puis Monseigneur Allard, que lui qui avait fondé le collège de Caraquet, qui va devenir, quand ce qu'il a brûlé, lui, de Bathurst. Fait que, dans le temps, dans les années 1800, là, les prêtres, là, quand c'était des grands personnages, même en Acadie, on pouvait les enterrer, en tout cas, on déplaçait le plancher, puis on les enterrait dans les églises. Fait qu'il y a certaines des églises par chez nous qui avaient des corps inhumés à l'intérieur. Puis, on pense peut-être que c'est un règlement du diocèse, on n'est pas sûr si c'est une loi provinciale, mais il a fallu les déplacer, ces corps-là, les sortir hors des églises. Puis, dans les années 1940, on va faire ça, on va déplacer les deux corps. On a des photos de ça, les années 1944, je pense, les deux corps. Les deux cercueils sont côte à côte sur une photo, puis on est en train de les enterrer dans le cimetière actuel de Caraquet. Il y a un petit article là-dessus. Il y a un autre article sur Olivier Blanchard, sur lui, c'était le lancet des Blanchards de Caraquet. Fait que lui, on a un article sur lui qui était constructeur de bateau, qui a vécu le grand dérangement, qui est arrivé à Caraquet dans les années 1700. On parle de 1760, 1770, 1780, constructeur de navires, puis tout ça. Il y a un article sur l'origine des Lacroix, qui a quelques pages aussi, que ceux qui sont intéressés par la généalogie ou l'histoire des familles.
La famille de Dona Lacroix?
Oui, cette branche-là de Caraquet aussi, oui, ouais, les Lacroix. Puis, on a une toute petite section qu'on appelle de notre photothèque. Fait que à la Société historique Nicolas-Denis, il y a des photos. Fait que là, on parle de différentes choses. Puis, là, c'est des photos des ruines du collège. Justement, le collège que Monseigneur Allard avait fondé. Fait qu'on avait des photos de ça. Clarence Le Breton avait fait une conférence sur le congrès eucharistique, que je pense, j'ai fait une chronique dessus, moi. Le congrès eucharistique avait eu lieu, ce qui est comme le centre culturel, ce qui est le cinéma, là, ce secteur-là de Caraquet. Puis les ruines étaient à peu près là, là. Puis on a dû les démolir, puis on a fait le congrès eucharistique en 1950, jusqu'à étaient les anciennes ruines. Là. Aujourd'hui, c'est drôle, en Caraquet, on avait des ruines pendant une vingtaine, trentaine d'années du collège. Puis là, depuis 30 ans, on a les ruines du couvent. Enfin, il y a toujours eu des ruines pendant un certain nombre d'années à Caraquet. Là.
J'ai publié un lien concernant cette nouvelle revue de la Société historique Nicolas-Denis. Si les gens veulent voir ça, c'est sur notre page Facebook de la Superstation.
Merci, Philippe.
De rien. À la semaine prochaine.
Envie de prendre votre marche de santé, mais tanné de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs du village historique acadien. Le site est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours de 8h à 16h quand la météo le permet. Vérifiez l'état du sentier en visitant la page Facebook du village historique acadien. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos, les raquettes et les traîneaux. Bonne randonnée!